واسترشدوا بالكوكب الذهبي واسترشدوا بالكوكب الذهبي واسترشدوا
Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8, et nous sommes en compagnie de nos amis de la librairie L'Inédite qui ont invité Michel Stroun des éditions Metropolis, et nous évoquons un livre écrit par une femme palestinienne, Liana Badr, le titre du livre « Une boussole pour un soleil ». Alors peut-être Michel Stroun, vous pourriez quand même nous donner des idées un petit peu de la trame du livre, parce que vous avez déjà évoqué à un moment donné toutes les trois des passages du livre. Peut-être pour nos auditrices, c'est important de se faire une idée un peu plus grande de ce qu'il y a, ce qu'est ce livre.
Oui, je crois que elle a, bon, il y a premièrement une héroïne. Elle dit que ce n'est pas elle, c'est vrai que ce n'est pas elle, parce que c'est une jeune femme qui, En fait, elle va de son enfance à son adolescence, à sa femme, à sa vie d'adulte, et elle passe de l'un à l'autre sans arrêt. Comme c'est toujours des espèces de flashs qui lui arrivent dans la tête. Elle vit un événement et elle pense à un autre. Donc, je sais que son livre est fait comme ça, par espèce de serpentin autour de sa vie. Elle part de 48, qui est le moment de la guerre entre les Arabes et les Israéliens. Et de son premier exode, elle parle du premier exode, mais finalement, c'est pas tout à fait correct parce que la guerre de 48, le premier exode, c'est Jérusalem. Après ça, elle habite Jéricho, donc il y a des confusions un tout petit peu historiques parce que Jéricho, ça n'est qu'en 67 que les Israéliens sont entrés à Jéricho. Mais elle parle aussi de son exode de Jéricho et puis de son exode vers la Jordanie. Elle parle beaucoup de Septembre Noir. Apparemment, elle a vécu Septembre Noir et elle en parle avec beaucoup, beaucoup d'horreur et de chagrin. Elle parle également du Liban. Elle parle de Damas. Elle parle également de tous ces exodes qu'elle a connus parce qu'à chaque fois, ils se font renvoyer. Alors, à un moment donné, elle parle aussi des camps en Palestine, de son travail, du travail des jeunes Palestiniens et de son travail auprès des femmes. Un de ses amis d'enfance fait un détournement d'avion et c'était pour la première fois que je lisais un détournement d'avion, non pas à travers les rescapés des détournements d'avion qui, en général, en Europe, sont extrêmement traumatisés, mais à travers toute une famille qui suit l'événement avec beaucoup de crainte pour celui qui détourne l'avion et qui attaque finalement les autres pays qui ne veulent pas recevoir l'avion. Donc on est tout à coup de l'autre côté.
Je crois que c'est effectivement intéressant de voir à chaque endroit. Est-ce qu'à chaque endroit, elle vit une nouvelle histoire? Ou est-ce qu'elle y reconstruise à chaque fois quelque chose d'autre?
Non, je crois
effectivement,
toujours...
ou c'est une vie qu'elle poursuit parce qu'il y a une vie de communauté, peuple qui est très fort et finalement, c'est une errance supplémentaire. Mais il y a le fil conducteur de la vie palestinienne.
Je crois que pour commencer, elle ne part pas très loin. En fait, elle est toujours dans la même région, plus ou moins. Et elle est toujours entourée de son père, de sa mère, de son ami d'enfance, de la vieille mère de son ami d'enfance. Elle regrette surtout les pierres. Elle regrette sa maison. Elle regrette les fleurs. Elle regrette l'air. Elle regrette les montagnes. Mais en vérité, elle ne regrette pas les gens, puisque les gens sont toujours présents autour d'elle.
Oui, les gens l'ont. Ses amis l'ont suivi, mais j'ai eu l'impression à un moment donné qu'elle avait perdu sa mère. Mais bon, c'est resté dans un certain flou, comme tu dis. C'est quelquefois difficile de suivre la trame si on ne connaît pas, je dirais, bien aussi. Enfin, si on ne connaît pas un petit peu, en tout cas, les événements historiques auxquels elle se réfère. Parce que, Septembre Noir, elle en parle comme ça, mais. Alors, celui qui n'a jamais voulu savoir ce qu'était Septembre Noir reste un petit peu en l'air, ou peut-être l'a oublié, hein, l'a eu su à l'époque, et l'a oublié. Alors, bon, on est un petit peu obligé de... Quelquefois, moi, je suis même retournée à d'autres bouquins pour me dire, ah oui, c'était ça, cet événement exactement, et c'est pour ça qu'elle dit ceci et cela. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la voix féministe qu'il y a là-dedans, parce que elle souffre, même si il y a une révolution entre guillemets palestinienne en marche, enfin il y a une révolution sociale qui veut se faire et politique, même si elle a l'air d'inclure une certaine libération des femmes. C'est pas toujours vrai dans la pratique. Et ça, apparemment, elle l'a vécu. L'auteur l'a vécu, puis la protagoniste du livre l'a vécu aussi. Cette condition de femme, quand même, dans une culture arabe, et auquel tout n'est pas permis, qui n'a pas exactement les mêmes chances que les hommes, ou qui, certaines fois, ne voudrait pas résoudre les choses comme les hommes. Par exemple... Dans le cas de son amie d'enfance qui, à un moment donné, devient un terroriste et détourne un avion, elle est très claire, même si elle compatit, elle le pleure, elle ne voudrait pas, au fond, qu'il ait pris les décisions qu'il a prises. Elle n'aurait pas voulu qu'il perde sa vie dans ce genre d'action. Elle trouve dommage. Elle a tout un discours... comment je dirais, rêver avec lui, puisqu'il n'est pas là. Hein. Il est quelque part dans un avion, sur un aéroport, là, entouré de policiers, de militaires. Et puis, elle a un espèce de discours avec lui, où elle lui dit, mais toi, tu dis que l'orgueil, c'est la vie, et que par orgueil, à cause de toutes les humiliations qu'on a subies, on doit faire ce que tu fais. Mais moi, je trouve pas. Moi, je trouve que l'orgueil, c'est d'assurer la vie. Alors, elle voit les choses autrement et elle les voit. Elle, je dirais, pour moi, bon, je me trompe peut-être, mais c'est un petit peu la manière dont le voient plutôt les femmes qui ont de la peine à se lancer finalement dans ces actions militaires qui aboutissent toujours à des pertes de vie, à perdre la vie, quoi, à disparaître. Et elle est très proche de la mère de ce jeune homme qui souffre et qui ne peut rien faire. Et je trouve que c'est intéressant d'entendre cette voix de femme qui dit « Moi, je voudrais pas vivre comme ça. Moi, si je pouvais, je voudrais qu'on nous libère. » Mais pas tout à fait comme veulent les hommes. Je sais bien qu'on me dit que je suis légale, mais si je me mets des pantalons ou si je me conduis de telle manière, tout de suite, on fait des remarques. Même que je suis une dirigeante politique, hein, dans le camp. On me met des limites qu'on ne met pas aux hommes. Hein. Alors, elle n'est pas d'accord. Et c'est... J'aime bien, moi, ça, qu'elle soit pas d'accord et qu'on entende ces voix de femmes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Mais c'est clair, elles existent, elles sont là, elles se manifestent quelque part. Juste, nous, on ne le sait pas. Hein. Et alors ça, c'était la grande chance, c'était de pouvoir lire ce livre et d'écouter ces choses. Et puis, elle parle d'autres manières, de cette condition féminine de la palestinienne d'aujourd'hui. Par exemple, elle prend le cas d'une amie qui a beaucoup de peine, qui est amoureuse d'un... On ne sait pas très bien ce qu'il fait au début, ce jeune homme. Et puis finalement, lui aussi, c'est un grand activiste dans l'action révolutionnaire. Et il en meurt d'ailleurs, lui aussi. Hein. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de pertes de vie humaine là-dedans. Et cette amie est amoureuse de ce jeune homme et a beaucoup de peine à se déclarer. Elle a de la, et alors elle explique son problème à la protagoniste. Elle dit comment est-ce que je peux faire pour changer? Est-ce que je sais plus comment elle dit quelque chose? Est-ce que dans le lait maternel que nous avons bu, nous avons aussi bu toutes ces choses qui nous empêchent de nous ouvrir aux autres et d'être plus franche et d'être plus directe, aller avec les hommes par exemple. On a dû boire quelque chose de bizarre, c'est cette tradition de la femme musulmane ancienne ou je sais pas quoi avec notre lait maternel et ça fait qu'on a des barrières. Alors elle donne la voix à cette personne-là, et puis elle donne la voix à une autre mère qui a bien dû elle aussi suivre ses chemins de l'exil et qui pleure ce qu'elle avait avant, au fond, ce qu'elle avait avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire une vie relativement organisée. Je crois qu'elle vivait à Jérusalem, celle-là, à l'époque, c'est le personnage de Oumma Moud. Hein, et elle se rappelle d'aller sur la plage et de chanter les chansons de leur culture et de participer à des grandes fêtes et d'avoir une terre et enfin d'avoir une vie qui a un sens. Et puis bon, elle a dû fuir comme beaucoup d'autres, et puis elle a perdu ses biens, elle a perdu ses attaches et elle va on comprend qu'elle va à des cours d'alphabétisation dans les camps palestiniens, mais elle y va avec ses petits pois écossais. Hein, parce qu'elle, bon, elle a cette condition de mère de famille, elle a un enfant qui est déjà dans les dirigeants révolutionnaires, mais il y en a d'autres qui suivent, et puis ceux-là, bon, faut encore les nourrir, et puis elle essaye d'apprendre à lire et à écrire, chose qu'on avait interdit autrefois. C'est, je ne sais plus très bien dans quelle partie du livre c'est, mais ça aussi c'est bien typique. Les femmes disent oui, maintenant on pourrait apprendre à écrire et à lire, mais autrefois ça nous était interdit parce que les hommes avaient peur qu'on écrive des lettres à des amants potentiels. Hein. Donc il valait mieux que les femmes ne sachent pas écrire, comme ça, hein, t'es pas tenté par le diable. Et alors il y a tous ces éléments-là que moi j'ai beaucoup aimé et que disons peut-être je les ai compris plus plus facilement aussi hein, que d'autres choses.
Mais je crois que l'élément justement de sa lutte en tant que femme est presque plus importante que sa lutte politique. C'est vraiment sa lutte à elle, c'est l'émancipation des femmes.
Oui.
À l'intérieur des camps. Et par exemple, Mahmoud a honte d'aller à l'école. À un moment donné, elle dit qu'elle a honte de aller à l'école, que ça ne se fait pas.
Je me rappelle ça.
Mais très certainement que la situation de ces femmes dans les camps, par exemple, fait qu'elles doivent prendre les choses en charge. Elles sont souvent seules. Leurs maris, leurs frères, leurs fils ont été souvent tués. Elles donc doivent se débrouiller beaucoup. On le sait, ça, par très nombreux témoignages de femmes palestiniennes. Si les femmes palestiniennes sont à ce point-là plus en avance au niveau de la lutte des femmes parmi les femmes musulmanes, c'est parce qu'elles ont dû le faire, dans le sens qu'elles ont dû assumer des responsabilités. Et pour avoir interrogé diverses femmes palestiniennes jusqu'à ce jour, elles disent toutes qu'en fait, elles ont été poussées en avant, poussées par la réalité, poussées par l'actualité.
J'ai lu une interview de Liana Badr dans un journal anglais qui est Sperry, que vous devez sûrement connaître, qui est le journal féministe anglais. Et elle disait que la chose avec laquelle elles avaient le plus peur, c'était de se retrouver comme les femmes algériennes.
Voilà.
Et c'est-à-dire au niveau zéro après la révolution. Mmh. Et qu'elles essayaient déjà maintenant de mettre en place des structures de sorte que cette chose-là n'arrive plus.
Oui, rappelons que les femmes algériennes ont participé très fortement et de façon très engagée à la lutte de la guerre de libération et quasi au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, eh bien, elles se sont retrouvées de nouveau dans les harems et sous les voiles. Et s'il est des femmes pour lutter toujours aujourd'hui, c'est vrai qu'elles doivent remonter de fort loin par rapport à où on les a renvoyées au lendemain de la guerre de libération. Puis-je vous poser une question encore, Michel Strun? Est-ce que ce livre et ce que raconte Liana Badr a changé votre vision de ce qu'est la vie des Palestiniens, vous, en tant que femme juive?
Non, parce que j'ai vécu en Israël et que j'ai rencontré beaucoup de femmes palestiniennes avec lesquelles j'ai toujours eu des contacts. Donc, ce qu'elle dit rentrait dans quelque chose que je connaissais. La seule chose qui a peut-être changé... je dirais ce qui m'a peut-être intéressée, c'était d'une part cette lutte, mais que je connaissais bien parce que les femmes palestiniennes luttent depuis longtemps pour une certaine égalité dans la famille musulmane. Peut-être ce qui m'intéressait, c'était c'était peut-être le côté, comment dire. Oui, l'écriture de l'autre côté, c'est-à-dire en dehors, vous voyez par exemple l'histoire du détournement d'avion m'a intéressée. Parce que là, non, j'avais jamais rencontré un terroriste qui avait détourné un avion. Donc c'était comme si je l'avais rencontré, qui m'avait raconté comment ça se passe quand on est soi-même terroriste et qu'on tient tout un avion en haleine. C'était intéressant.
Mais souvent, on voit des tas de photos, par exemple, qui nous montrent ce qui se passe pendant l'intifada. On voit souvent les femmes palestiniennes sur ces photos. Et la presse, en tout cas, se fait rarement l'écho de ce que sont, de ce que font les femmes dans ces événements-là. Est-ce que vous avez la sensation que les lecteurs et les lectrices du livre de Liana Badr vont découvrir, eux, quelque chose qu'ils ne connaissent pas parce qu'on en parle trop rarement?
J'espère qu'ils vont le découvrir. J'espère qu'ils vont le comprendre. Je suis déjà contente que Evelyne ou...
Annette.
Ont vraiment bien compris le livre. Donc ça signifie qu'il y a quelque chose dans ce livre que les femmes vont peut-être saisir et peut-être les hommes aussi. Je ne sais pas.
Espérons. En tout cas, je vous remercie bien d'être venu jusqu'à nous, même si vous devez affronter une grande circulation pour rentrer en ville.
Je suis terrorisée. Je vais prendre un hélicoptère.
Je suis désolée, on ne pourra pas me
détourner. Oui. On est tout près de l'aéroport, tu pourrais détourner un hélicoptère. Non, on a dit que les femmes n'utilisaient pas ces méthodes.
Oui, il faut peut-être insister à ce sujet qu'elle, en permanence, elle est contre la violence.
Oui,
elle est contre la violence, en tout cas contre la mort.
Je vous propose d'écouter, avant de parler du livre de Mariana Barbet dont va nous parler Annette,
oui, tout à l'heure.
De donner la voix à une autre Oum. Vous parliez de Oum Mahmoud qui est une des personnes évoquées. Je vous propose Oum Kalsoum, bien évidemment.
Oui. بالهوان في قلبي لو كنت أرضى بالهوان في قلبي وإزاي تطوله وتحكمه في ظلمه
Nous changeons complètement, évidemment, d'horizon avec Mariana Barbet. Mariana Barbet qui écrit en Suisse.
Et oui, qui n'est pas suisse non plus.
C'est pour ça que je dis qu'il écrit en Suisse. Et donc américaine d'origine, c'est
tout
ça
fait, oui.
Et qui nous propose un nouveau livre, parce que Mariana Barbet, j'ai écrit beaucoup d'autres livres avant. Et celui-là s'appelle « Ma voix ou celle d'Echo ». Alors, je ne savais pas qui est Echo, et c'est une nymphe grecque, n'est-ce pas, Annette ?
Oui, bien sûr, puisque, en fait, elle utilise ce titre en référence à la mythologie grecque, parce que une bonne partie du livre est en fait dédiée aux déesses grecques. Elle a recherché dans les mythes féminins ce qui pouvait correspondre à certains aspects de l'existence des femmes depuis toujours, comme tous les mythes. Et dans ce sens-là, elle est aussi un petit peu écho, comme peut-être chacune d'entre nous.
Alors, est-ce que c'est une réflexion, ou c'est comme tu dis, ou c'est un, comment dire, elle n'a pas du tout cherché à donner l'apparence d'une histoire, c'est vraiment une réflexion?
Non, il faut dire que le livre est en fait composé de trois parties qui sont liées, mais bien distinctes quand même les unes des autres. Et elle a commencé, elle l'explique d'ailleurs dans une petite préface, elle a commencé par nous raconter le mythe de Déméter et Perséphone, parce qu'en fait, son livre sera donc pas mal basé sur une interprétation, une analyse de la relation mère-fille. Et dans ce sens-là, elle essaye de se retrouver un petit peu, de retrouver certaines lois, si on peut dire, universelle dans la relation que Déméter entretient avec Perséphone ou Corée, donc un de ces personnages de la mythologie grecque qui a deux noms et qui est mêlé, bien sûr, à la relation avec l'homme. Vous vous rappelez peut-être que Perséphone est enlevée par Hadès le dieu des enfers, et n'aura le droit de remonter sur terre qu'à l'époque de l'été, parce que la mère Déméter est la déesse de la fécondité. Et quand elle retrouve sa fille, elle est heureuse, c'est l'été. Quand elle perd sa fille, qui doit retourner aux enfers, c'est l'hiver, c'est la désolation. Alors ça, c'est brièvement raconté, le mythe de Déméter et Perséphone. Et Mariana Barbet s'est intéressée à ces mythes-là. Ensuite, elle raconte une histoire. Et ensuite, elle nous raconte encore une conversation imaginaire avec une autre déesse grecque qui s'appelle Hécate et qui est pour Mariana aussi une sorte de sorcière, mais disons une sorcière bienveillante. Elle essaye donc de rattacher ces trois éléments les uns aux autres. Et dans ce sens-là, ce livre est un parcours extrêmement initiatique, je dirais. Et c'est un livre, on en a parlé d'ailleurs, on a eu l'occasion d'en parler ensemble.
Et tu veux dire toi et Mariana
Barbet? Oui, et d'autres gens, parce qu'on parlera peut-être un petit peu après plus de l'auteur, qui effectivement a écrit d'autres livres, mais a aussi d'autres activités très intéressantes en Suisse romande et assez uniques quand même. Et plusieurs personnes qui participaient avec moi donc à une discussion autour du livre ont dit « En fait, ce livre, on a envie de le lire plusieurs fois. » Parce qu'il y a une espèce de trame personnelle, une histoire, donc c'est une relation, une histoire amoureuse qui est le centre du livre. Mais il y a toute une réflexion au début et à la fin du livre sur cette relation et qui demande... pour beaucoup de personnes, donc une deuxième lecture, parce que d'abord, on a envie de suivre l'histoire. Hein. Un roman, c'est aussi ça. Hein. C'est savoir qu'est-ce qui se passe pour les gens, comment est-ce qu'ils vont être là-dedans. Et puis ensuite, on peut essayer d'aller pas seulement à la première identification très simple qu'on fait dans les histoires amoureuses, mais une réflexion sur pourquoi est-ce que je me lance dans de telles aventures, est-ce que c'est bénéfique, est-ce que c'est un passage obligé, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, est-ce que ça arrive à tout le monde. Et c'est pas une réflexion philosophique, mais c'est quelque chose de, à la fois d'affectif et d'historique.
Alors, est-ce que toi, peut-être tu pourrais nous donner ton avis pour une fois avant qu'on commence à vraiment dans le fin fond du livre?
Alors moi, j'ai trouvé effectivement extrêmement nouveau cette façon de s'interroger et de réinterpréter les mythes grecs. Et je crois qu'effectivement, c'est une autre réflexion que la réflexion psychanalytique. Il y a donc beaucoup de références et elle a aussi une partie du livre où, après l'histoire amoureuse, elle cherche dans ses souvenirs. Parce que pour elle, il y a l'explication de son désir et de sa relation qui finit mal d'ailleurs. Elle a ses sources aussi dans son enfance, dans les relations qu'elle a eues avec son père, avec sa mère. Bon, réflexion archi connue et psychanalytique. Alors si on double ça d'une recherche mythologique, d'une recherche mythique, on découvre vraiment d'autres chemins. Des chemins plus philosophiques, bien sûr, mais aussi des chemins de réflexion qui sont différents.
Des amours faciles pour exister et des gens